France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'horizon, en voilà un beau thème exploré dans notre série de cette semaine. Premier épisode, l'invention de l'horizon. Oui, il semblerait que l'horizon ait été un jour inventé, et notamment par la peinture occidentale à un moment de son histoire. Peut-être vers la fin du Moyen-Âge, nous allons en discuter avec les invités de ce matin. Et peut-être cette invention artistique s'est-elle inscrite dans le prolongement d'autres quêtes. L'ascension du mont Ventoux par l'Italien Pétrarque en 1336, ascension qui a fait de lui une véritable star européenne, fait partie de ces événements ayant donné l'impression que l'infini pouvait s'ouvrir à l'être humain et gagner, ce faisant, le droit à une représentation privilégiée. Les découvertes scientifiques de la Renaissance européenne ont aussi été déterminantes, tandis que se déployait cette impulsion artistique pour faire exister l'horizon, impulsion que le romantisme rendra plus radicale encore à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il semble que la peinture chinoise, par exemple, n'ait pas du tout le même rapport à l'horizon, préférant la succession de lointains de toutes sortes. Mais est-ce si différent et en quoi ? L'horizon est-il vraiment une affaire de culture, de civilisation ? Bonjour Pierre-Henri Frangne.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien ?
Parfaitement.
Vous êtes professeur.
C'est difficile.
Professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université Rennes 2. Vous avez beaucoup travaillé sur la montagne comme objet artistique. L'un de vos livres paru aux presses universitaires de Rennes s'intitule « L'alpinisme ». Et il nous permettra de relier ce matin les réflexions sur la peinture et la littérature à ces démarches plus existentielles et sportives que sont les ascensions de montagne. Bonjour Michel Collot.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Aix-en-Provence. Merci aux équipes de Ici Provence. Vous êtes Michel Collot, professeur émérite de littérature française de l'Université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de poésie contemporaine et passionné par la question du paysage. Vous avez beaucoup écrit sur l'horizon. C'était même le sujet de votre thèse de doctorat parue en 1998 aux éditions José Corti sous le titre « L'horizon fabuleux ». Et bonjour Yolaine Escande.
Bonjour.
Oui, à distance, vous aussi, mais bien là, merci. Vous êtes sinologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des arts graphiques chinois, calligraphie et peinture. Vos publications sont nombreuses, je renvoie nos auditeurs vers notre site pour toutes les précisions. Pour commencer notre réflexion sur l'invention de l'horizon, écoutons l'artiste peintre français Jacques Monory, disparu en 2018, qui commentait en 1995 sur France Culture une œuvre du peintre allemand Carl David Friedrich, mort en 1840.
J'ai là, sous les cieux, ce tableau. C'est le moine au bord de la mer. Et lorsqu'il est exposé pour la première fois, Elena Maria von Kugelgen, qui était une amie de Friedrich, s'exclame « Mais il n'y a rien à voir !»
Et il n'y a rien à voir et il y a tout à penser. Bah, c'est beaucoup mieux, hein, quand même. C'est la richesse de cet artiste. On ne peut pas le saisir réellement, qu'il est fuyant. Parce qu'il a toutes ces choses en lui qui sont indiquées dans son travail. Et ça crée un flottement qui donne une certaine inquiétude. Alors il met un petit moine là au bord de la mer pour bien indiquer ce qu'il veut dire. Tandis que maintenant, on ne met pas ça. Quand il y a ce petit moine avec sa petite chose rouge là, c'est bien. C'est, au fond, c'est plus riche dans une certaine mesure. Mais nous, les contemporains, on est plus portés à vouloir mettre dans notre tête le petit moine et pas sur la toile.
C'est très joli, non, Michel Collot, cette idée de l'inquiétude et du faire penser, car on l'a entendu, Jacques Monory pense qu'il vaut mieux faire penser que faire voir, même en peinture. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce qu'il touche là des enjeux majeurs de l'horizon en peinture ?
Certainement pour le contemporain, dans la mesure où
le contemporain a fait évoluer la peinture de paysage du côté d'une certaine abstraction. On a parlé d'un paysage abstrait. Mais je pense que si on remonte un petit peu en arrière, on pourra peut-être, d'une part, faire droit à ce que vous avez bien mis en lumière au début même de cette émission, c'est-à-dire l'invention d'un art du paysage. Mais même en deçà, et là je défendrai la part du visible, en deçà, c'est-à-dire que je pense que les représentations picturales qui émergent en effet à la Renaissance, disons en Occident, prennent néanmoins appui aussi sur une expérience du paysage qui, elle, est peut-être immémoriale parce que je pense que c'est très lié, et notamment l'horizon, c'est très lié à des dimensions anthropologiques de l'être au monde humain, puisque certainement il n'y aurait pas d'horizon pour Homo sapiens s'il n'avait conquis la station debout. La station debout qui lui permet de prendre de la hauteur, mais aussi de la distance, et de découvrir d'une part un paysage et pas seulement un environnement, et jusqu'à cet horizon qui délimite la portée de son champ visuel. Donc là, je défends la part du visible, et je la défends d'autant plus que l'horizon articule ce visible à un invisible. Et c'est là que, en effet, commence cette aventure qui va nous mener aux représentations contemporaines du paysage, où, en effet, le paysage peut devenir abstrait, peut devenir une expérience de pensée tout autant que une simple vue.
Michel Collot, Horos, en grec, ça veut dire borné. Donc l'horizon, a priori, cela vient de l'idée d'une limite, et vous venez de le dire. L'idée d'une limite, d'une borne. Et pourtant, votre livre sur l'horizon s'intitule « L'horizon fabuleux ». Qu'est-ce qui est fabuleux ?
Eh bien, précisément parce que l'horizon a cette particularité qui est souvent mal appréhendée, à la fois de limiter le paysage et de l'ouvrir sur un au-delà, ce que les Chinois appellent le paysage au-delà du paysage, cet au-delà dont on fait simplement l'expérience en constatant que l'horizon nous montre une étendue de pays, mais il dérobe aussi une autre partie. Et si on veut aller la voir, eh bien on va se confronter à l'expérience, l'épreuve même, d'où l'inquiétude, l'épreuve du recul de l'horizon. Et l'horizon recule indéfiniment à mesure qu'on avance vers lui. Et par conséquent, c'est sûr que la vue ne suffit pas, qu'il y a dans l'horizon un appel à l'imagination. Et c'est pourquoi j'avais intitulé, en pensant à Rimbaud et à son opéra fabuleux, mon livre « L'horizon fabuleux ». Parce qu'il reste à inventer, comme vous disiez, il reste à inventer ce qu'il peut y avoir au-delà de l'horizon, et l'horizon nous y incite.
Pierre-Henri Frangne, vous vous intéressez beaucoup au désir d'escalader les montagnes dans l'histoire. Est-ce que c'est aussi pour nous dire que, par-delà, si j'ose dire, la peinture, les démarches artistiques, l'horizon, l'illimité, c'est d'abord un enjeu quasi existentiel. C'est dans leur existence active et sportive, au passage, que les individus veulent jouer avec la limite.
Quand j'ai écrit ce livre de l'alpinisme, et qui prolonge des réflexions que j'ai faites les années précédentes, j'ai voulu participer à ce qu'on appelle une esthétique environnementale. C'est-à-dire envisager le paysage non pas comme une veduta, comme disent les Italiens, une vue, non pas comme un belvédère, pas seulement comme un belvédère, pas seulement comme un panorama, c'est-à-dire une vue qui tout embrasse, mais comme un environnement à explorer, un paysage qui se voit, mais qui se sent corporellement, charnellement, je veux dire, par l'ouïe, le toucher, l'effort physique. Et d'une certaine façon, expérimenter le paysage de montagne, c'est expérimenter plusieurs types d'horizons. On en parlera avec Yolène tout à l'heure, Yolène Escande, mais la première expérience de l'horizon, c'est la chaîne de montagne à l'horizon, justement. C'est-à-dire cette apparition, hein, vous savez que Walter Benjamin, quand il définit l'aura de la nature, prend l'exemple justement de la chaîne de montagne qui apparaît au fond de l'horizon un jour d'été quand le regardeur se repose. Et vous voyez, quand Benjamin décrit l'aura, il commence déjà à faire de la littérature, hein, puisqu'il parle de ce voyageur, enfin de celui qui se repose et qui voit apparaître la chaîne de montagne. Mais ça, c'est la montagne de loin. Et puis, il y a la montagne de près. Et la montagne de près, celle qu'on essaye de gravir, c'est une montagne qui barre l'horizon, qui interdit l'horizon. Si bien qu'on pourrait penser que gravir une montagne pour accéder à son belvédère, à son panorama, on pourrait dire que c'est une conquête de l'horizon, une quête de l'horizon, qui est d'ailleurs ambiguë. Parce que quand vous arrivez au sommet du Mont Blanc, ce qui m'est arrivé, ce qui arrive à des milliers de personnes, évidemment.
Vous êtes monté au Mont Blanc.
Oui, bah c'est-à-dire que écrire un livre, oui, écrire un livre sur l'alpinisme n'aurait pas de sens si on ne la pratiquait pas.
Si, on peut écrire sur des choses qu'on n'a pas faites quand même.
Oui, mais enfin, j'aurais eu le sentiment d'écrire un livre de supercherie, si vous voulez. Et d'ailleurs, comment dire, le plus bel éloge que j'ai reçu de. Après l'écriture de ce livre, c'est l'éloge des guides de haute montagne. C'est-à-dire, eux, ils savent. Bon, alors j'ai voulu quand même pénétrer de l'intérieur, et puis cette esthétique environnementale dont je vous parlais, elle n'est explicable que si vous expérimentez l'environnement lui-même dans sa difficulté, dans sa dangerosité, dans sa brutalité. Je reviens à l'horizon. Quand on arrive au sommet d'une montagne, bon, d'abord, on est assez content parce qu'on a quand même fait des efforts qui, pour soi, sont inimaginables. Et puis, on arrive au sommet, et là, il n'y a plus que de la lumière, il n'y a plus que de l'air. Et il y a un horizon à 360 degrés.
Et est-ce qu'on est inquiet, comme le suggère l'artiste que nous venons d'entendre,
non, on n'est pas
Jacques Monory, face à l'horizon? Est-ce qu'il y a cette inquiétude?
On n'est pas inquiet, on est, je pourrais le dire, à la fois très content et extrêmement déçu. Quand vous êtes au sommet du Mont Blanc, vous avez un paysage à 360 degrés, mais qui a quelque chose de plat, sur lequel l'œil ne peut pas se fixer, et il y a une sorte de frustration. Il y a un pyrénéiste du 19e siècle qui s'appelle Franz Schrader qui raconte cette histoire de quelqu'un qui descend non pas le Mont Blanc mais le Cervin, et on lui dit c'était bien en haut du Cervin, et il dit oui mais c'était bien mais il manque le Cervin. Quand vous êtes au sommet du Mont Blanc, il manque le Mont Blanc.
C'est vrai.
Eh ben oui, puisque vous êtes dessus et que l'œil ne peut pas se voir lui-même et vous ne pouvez pas vous voir voyant le Mont Blanc. Et donc, si vous voulez, c'est une expérience à la fois très profonde, mais très frustrante, parce que un horizon à 360 degrés, c'est un horizon total. Mais d'une certaine façon, c'est le moment où l'horizon se défait, puisque vous avez tous les points de vue. Si vous avez tous les points de vue, vous n'avez pas votre point de vue, puisque je pense que l'horizon ne peut se définir qu'à partir du point de vue de celui qui regarde.
Yolande Escande, vous connaissez très bien l'histoire de la peinture chinoise et de la calligraphie. Est-ce que c'est parce qu'il y aurait une conscience de cette déception dont vient de parler Pierre-Henri Frangne que les Chinois ne sont pas très intéressés par l'horizon. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être très intéressé par l'horizon? Qu'est-ce que ça veut dire montrer qu'il y a des lointains et pas un horizon comme trace d'infinité?
Alors, c'est Yolène Escand.
Comment je vous ai appelé? Ah, pardon, Yolène.
Yolande.
Pardon. Pardon, bon, je vous laisse nous expliquer la Chine, l'horizon et les lointains, s'il vous plaît.
Oui, alors, pour ce qui est du terme horizon en chinois, c'est un mot qui n'existe pas dans la langue traditionnelle. Il a été traduit en chinois moderne, il vient des langues occidentales. Il a été traduit de façon intéressante par deux termes, soit le bord du ciel, ou bien la frontière des yeux. Donc, bord du ciel tient bien, ou bien la frontière des yeux, qui est aussi traduit par le champ visuel, yin jie. Mais en chinois traditionnel, ça n'a pas ce sens-là. Quand on trouve ces expressions, déjà, on les trouve assez peu, et pas du tout dans la théorie chinoise, enfin, en tout cas, pas du tout dans les textes théoriques chinois, où on trouve en revanche les lointains. Et effectivement, la frustration d'arriver au sommet, elle n'est jamais mentionnée dans les textes chinois parce que précisément le sommet n'est jamais le but. Puisque le but, c'est au contraire de se fondre avec le monde et non pas d'avoir un regard qui permette un retrait ou un écart entre moi et le monde. Tout à fait au contraire, le but est de se fondre avec la montagne, de devenir la montagne. Et donc, par cela, d'oublier la conscience de soi, et les lointains précisément, qui sont conçus dans la peinture chinoise, sont un calque de la marche montagnarde qui permet, au long du parcours, d'une part de se défaire de toutes les contingences humaines, donc de parvenir à une élévation d'esprit à laquelle a fait allusion Pierre-Henri Frangne et Michel Collot en a parlé également. Mais ce n'est pas justement un paysage au-delà du paysage, mais puisque ça c'est la traduction en français, mais en chinois c'est un paysage hors du paysage.
Donc ça, c'est, est-ce ça que, veut pourquoi dire c'est sortir. Différent? En quoi est-ce différent?
J'ai eh bien, un peu de mal de à soi, comprendre. Au lieu d'avoir son point de vue unique, d'avoir son point de vue à soi, précisément, on s'oublie soi-même, on perd la conscience de soi. Mm-hmm. Et c'est ça qui est essentiel. C'est précisément de se perdre et de devenir la montagne. Et non pas d'avoir un regard en recul et qui permette de voir l'horizon, précisément. Et c'est pourquoi, à mon avis, il y a cette conception des lointains qui est à la fois une conception philosophique, mais aussi technique. C'est-à-dire compose la peinture. Alors, le paysage en chinois, ça se dit montagne et eau, le paysage pictural et littéraire. Il y a d'autres termes pour désigner les autres formes de paysage, le panorama, le paysage de type occidental. Ce sont d'autres expressions, mais pour ce qui est de la peinture chinoise, l'expression dédiée, c'est montagne et eau, E-A-U. Hein. Donc, la montagne, c'est la verticalité, la dureté, la masculinité, etc. Et l'eau, c'est l'horizontalité, la féminité, la douceur, etc. Et donc, d'emblée, avec ces deux éléments de montagne et eau, on a affaire à une cosmogonie en œuvre, et non pas à la mise en présence d'un horizon.
Alors, je voudrais qu'on approfondisse...
Oui,
oui, oui, merci. Ces questions qui sont peu évidentes, c'est-à-dire on se dit, mais au fond du lointain, il doit quand même y avoir quelque chose comme un horizon. Nous allons essayer de mieux comprendre cette différence entre la vision chinoise et la vision occidentale. Écoutez François Cheng dans Culture Matin en 1998, et cela sera suivi juste après par un texte du penseur Guo Xi, j'espère que je prononce bien, penseur du XIe siècle, auteur d'un livre qui s'appelle « Message éminent des bois et des sources ».
Dans la peinture chinoise, il y a ce qu'on appelle les trois types de perspectives, c'est-à-dire plane, c'est-à-dire on va jusqu'au loin comme ça, à l'horizontale. Et puis la hauteur, c'est-à-dire on se trouve très bas et on regarde la montagne vers la hauteur. Ou bien aussi, il y a le regard dominant. Mais dans toutes ces trois perspectives, l'homme cherche quand même toujours à s'intégrer dans le paysage, voilà, pour en devenir la part la plus sensible et la plus vivante.
La peinture de montagne comporte trois lointains. Du bas des montagnes en levant les yeux jusqu'à leur cime, c'est le lointain haut. Des contreforts et en regardant vers l'arrière des montagnes, c'est le lointain profond. Des proches montagnes à celles que l'on aperçoit au loin, c'est le lointain plat. Les configurations du lointain haut sont saillantes et escarpées. La saveur du lointain profond s'exprime par l'accumulation de couches. Celle du lointain plat par la fusion harmonieuse des formes dans le flou et l'indistinction. Les couleurs du lointain haut sont claires et lumineuses. Celles du lointain profond foncées et obscures. Celles du lointain plat soit lumineuses, soit obscures. Il est indiscutablement admis qu'il existe des shanshui, peintures de montagne et d'eau, dans lesquelles on peut circuler, ceux où l'on peut contempler, ceux dans lesquels on peut randonner, et ceux où l'on peut habiter. Si une peinture parvient à cet effet, elle entre dans la catégorie merveilleuse.
Yolaine Escande, François Cheng disait que l'homme en Chine cherche à s'intégrer dans le paysage qu'il peint. En tout cas, il y a de l'humain, de même, dans ce texte d'esthétique hein, du XIe siècle, il m'a semblé entendre que l'objectif est d'habiter aussi tous ces lointains, que c'est ça qui est merveilleux. J'ai du mal à relier cela à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que l'individu doit s'oublier en Chine face au paysage. Et c'est par cela que vous justifiez tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas de pensée de l'horizon, qu'il n'y a que des lointains. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris.
Pardon, je me suis mal exprimée ou j'ai mal expliqué. Quand on regarde une peinture chinoise, on remarque qu'il n'y a pas de perspective, précisément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre portée, il n'y a pas de reflet dans l'eau. Il n'y a pas de point de vue unique, puisque ces trois lointains, que Guoxi explique très bien, pas de perspective au sens technique hein, du terme. Ces trois lointains se succèdent. Alors évidemment, ils sont vécus par un être humain, mais quel que soit le type de peinture, que le rouleau soit vertical, horizontal ou quel qu'il soit, on peut trouver ces trois formes, ces trois points de vue, même ensemble, dans une même peinture. Mmh. Rouleau horizontal, rouleau vertical, quel qu'il soit. Et cela signifie que ce qui compte, c'est le parcours. Et ce parcours est tout à fait essentiel. C'est pourquoi il faut pouvoir habiter dans la montagne. Mais avant de se détacher, il faut d'abord vivre dans la montagne. Pour devenir montagne, il faut d'abord respirer comme elle, la ressentir. Alors, Guoxi lui-même était peintre, avant tout. Et c'est pourquoi il a écrit ce traité de peinture et il a établi les principes de la peinture chinoise qui sont en vigueur encore de nos jours. Lorsqu'on apprend la peinture, on apprend ces principes des trois lointains. Et ces trois lointains sont un parcours, encore une fois, qui permet non seulement de circuler dans la montagne, mais de circuler dans la peinture. Et lorsque les peintres sont trop âgés pour pouvoir eux-mêmes aller dans la montagne et gravir les Alpes, comme disait tout à l'heure Pierre-Henri Fragne, eh bien, à ce moment-là, ils se contentent de regarder leur peinture pour pouvoir, de la même façon qu'ils l'ont fait physiquement, corporellement, revivre le parcours dans la montagne. Et comment le font-ils? Eh bien, à travers le trait de pinceau. puisque la peinture de montagne et d'eau, et la peinture chinoise en général, se réalise au pinceau, à partir du trait tracé et au rythme de la marche, du corps que l'on retrouve dans la peinture.
Merci beaucoup pour cette analyse. Alors, je voudrais maintenant que l'on compare avec un texte, un traité de la peinture occidentale. Écoutez cet extrait du traité de la peinture de Léonard de Vinci, écrit entre 1490 et 1495.
Les horizons sont à des distances variables de l'œil, puisqu'on appelle horizon l'endroit où l'air lumineux voisine la terre. Et il y en a autant, pour une verticale donnée, qu'il y a de hauteur pour le point de vue, car l'œil posé au niveau de la surface de la mer calme voit cet horizon à une distance d'un demi-mille environ. Et si on se lève et porte à l'œil sa hauteur habituelle, l'horizon sera éloigné de lui à 7000. Et ainsi, à chaque niveau d'élévation, correspond un horizon toujours plus lointain.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et nous parlons de l'horizon dans notre série de cette semaine, vaste et beau thème. Ce matin, je suis en compagnie de Yolaine Escande, Michel Collot et Pierre-Henri Franc. Nous évoquons l'invention de la notion d'horizon en Occident et notamment dans la peinture occidentale. Nous venons d'entendre un texte de Léonard de Vinci, Michel Collot, qui parle de l'horizon comme quelque chose qui se reconduit, je le cite, à chaque niveau d'élévation. Je me demande si c'est si différent que cela de l'approche chinoise qui ne connaît que des lointains et ne connaît pas la notion d'horizon, approche que nous avons vue juste avant. Est-ce que vous sentez, vous le spécialiste du paysage, de cette notion d'horizon, vous sentez fortement une différence ?
Oui, bien sûr qu'il y a une différence, mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de pointer les points de contact, parce que si vous voulez, puisqu'on est avec philosophie ici, si on tentait une petite phénoménologie de cette expérience du paysage dont je parlais tout à l'heure, on s'apercevrait qu'il y a quelques fondamentaux de cette expérience, une structure de cette expérience qui articule ciel et terre, proche, lointain, visible, invisible, limite, illimité. Et d'une certaine manière, c'est ce que je suis permis d'appeler, d'après Husserl, la structure d'horizon du paysage. Et si on se place au niveau de ces structures profondes, il me semble qu'il y peut y avoir, et la fascination d'un certain nombre de peintres, je pense à Pierre Talcoat, d'un certain nombre de poètes français, occidentaux, contemporains pour les arts chinois du paysage, montre qu'il y a comme une passerelle possible entre les deux univers, qui sont distincts, mais qui peuvent se faire écho. Parce que moi, je trouve, par exemple, puisqu'on a entendu François Cheng, traduit une notion vraiment fondamentale, je crois, de la poétique et de l'esthétique du paysage en Chine. Alors, je vais mal prononcer, Zhenying, par sentiment paysage, en mettant simplement un trait d'union pour éviter le génitif qui pourrait être soit objectif, soit subjectif. Le sentiment paysage, il naît à la rencontre d'un sujet et du monde. Et on ne sait pas, en fait, d'où vient ce sentiment. Il n'est pas simplement subjectif, il est aussi reçu de ce paysage lui-même. Et cette... Yolaine parlait de fusion, cette indistinction entre le sujet et l'horizon. Moi, je la rencontre beaucoup dans les textes littéraires, par exemple. Et au fond, souvent, la position du sujet n'est pas celle toujours d'un sujet dominant, mais plutôt, j'emploie volontiers le terme d'extase au sens étymologique du terme, c'est-à-dire un sujet qui sort de lui-même pour se projeter dans ce lointain. Et j'ai parlé aussi d'espacement du sujet. Eh bien, la peinture chinoise et la peinture de Sam Shui que, enfin, j'adore, me donne cette même impression. Et c'est justifié par le fait que, outre la théorie des trois perspectives, il y a des couples dans les traités de peinture et de poétique chinoise comme proche-lointain, intérieur-extérieur, visible et invisible, qui montre que, sans jamais montrer une ligne d'horizon au sens occidental du terme, je dirais que cet art chinois du paysage peut, d'une certaine façon, et à sa façon, illustrer ce que j'appelle la structure d'horizon du paysage.
Alors, merci. Je précise quand même à nos auditeurs que le bruit que vous entendez, manifestement, vient d'Aix-en-Provence, où vous êtes en studio avec nous. Michel Collot, il doit y avoir des travaux.
Désolé. C'est pas moi qui fais les travaux.
Je sais bien que c'est pas de votre faute, mais que c'est tellement étrange que je me sentais obligée de le préciser.
Merci.
Je voudrais comprendre, puisqu'on a parlé de Vinci, fin du XVe siècle, le Quattrocento italien est un peu antérieur à notre Renaissance, qui elle est plutôt considérée comme étant le XVIe siècle, je parle du nord de l'Europe. Mais peut-être que pour l'Italie, justement, ça s'est passé plus tôt encore. J'ai évoqué Pétrarque, qui en 1336 a escaladé le Mont Ventoux. C'est donc le siècle avant le Quattrocento. Est-ce que là n'a pas poussé, en cette fin de Moyen-Âge italien, Pierre-Henri Frangne, un désir d'infinité qui, au passage, est un peu problématique aussi sur le plan religieux. Pétrarque, oui. L'orgueil qu'il peut y avoir...
Le texte est ambigu.
Oui, oui, bon. Il célèbre la foi.
C'est la même
la
ambiguïté
foi,
que celle dont je vous parlais quand je suis arrivé au sommet du Mont Blanc, ou quand on arrive au sommet d'une montagne, en mieux, évidemment. Oui, puisque Pétrarque, en 1336, veut monter le Ventoux pour le simple plaisir de voir, dit-il. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y monte pas pour des raisons morales, pour des raisons religieuses, il y monte par simple amour de la réalité, si je puis dire. On pourrait dire aussi par amour de l'immanence. Bon. Et quand il arrive au sommet du Ventoux, après une courte description, il décrit ce qu'il voit et il jette son regard à l'horizon. Et alors, bon, il regarde au sud et il voit l'Italie, et il rêve, enfin, il se souvient de son enfance. Il voit les monts du Lyonnais un peu à droite, et puis plus à droite encore, au-delà des Pyrénées qu'il ne voit pas, parce que, dit-il, les yeux sont trop faibles pour les apercevoir. Il voit, il évoque l'Espagne. Et... on voit bien que pris dans cette beauté qui est mêlée à un effort de réminiscence, il ouvre son sac à dos, si je puis dire, et dans son sac à dos est caché les confessions de saint Augustin. Il ouvre au hasard en disant je vais lire une pensée du maître au hasard. Il ouvre le livre 10 et qu'est-ce qu'il lit ? Il lit les hommes naviguent sur les océans, explorent les terres et les montagnes et ils oublient de s'examiner eux-mêmes.
Ah, c'est sûr que la misère de l'homme, au sens augustinien du terme, est un peu bousculée par la démarche de Pétrarque de monter au sommet du Mont Ventoux.
Oui, alors c'est le premier paysage de la littérature parce que c'est la première fois qu'on a un texte de littérature qui décrit non pas un espace idéalisé, non pas une nature pensée, reconstruite, mais un lieu, c'est-à-dire un lieu singulier que l'on peut reconnaître, qui est nommé et que l'on peut reconnaître. C'est pour ça que c'est le premier paysage.
Mais diriez-vous que cet acte d'ouvrir Saint-Augustin, une fois en haut du Mont Ventoux, de la part de Pétrarque, c'était une façon de dire « j'ai voulu cela, j'ai fait cela, mais tout cela est vain »
j'ai fait une bêtise.
Ah oui.
Et donc, il est en colère contre lui-même. Et il redescend très mécontent. Et la lettre qui, visiblement, a été réécrite quelques années après cette expérience, si elle a eu véritablement lieu, elle est écrite à son confesseur. C'est une confession. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher l'intériorité, je me suis perdu dans l'extériorité. Et donc, on voit bien que c'est l'invention du paysage parce que c'est l'invention littéraire du paysage parce que c'est le souci déçu à la fin de l'extériorité.
Et c'est la même déception que, disiez-vous, vous avez vous-même éprouvé haut du Mont Blanc.
Il ne faut pas exagérer, je ne me prends pas pour Pétrarque. C'est une déception purement visuelle au sommet d'une très haute montagne. Bon, mais elle est compensée par d'autres plaisirs, évidemment. Mais si vous voulez, cette invention du paysage, elle est évidemment très, très ambiguë. Et ce que je voudrais dire, pour essayer de tirer les fils à partir de ce que Yolène et Michel ont dit, et à partir aussi de ce que Léonard de Vinci a dit, c'est que l'horizon n'est pas une ligne, comme on pourrait le dire spontanément. Et vous remarquerez que dans le texte de Léonard de Vinci, l'horizon n'est pas défini comme une ligne. L'horizon est défini comme un endroit.
Mais comme un lointain chinois, c'est pour
comme
ça que
un lointain.
Je pose ma question.
Pour une raison simple, à mon sens, qui fait que Michel a pu écrire un beau livre qui s'appelle « L'horizon fabuleux », c'est que l'horizon n'est pas une ligne sans grandeur. Elle est cet espace, ce lieu épais qui a une certaine densité, qui a une certaine dimension, qui est le lieu des apparitions et des disparitions. Vous savez, le grand urbaniste et paysagiste Michel Corajou a écrit au début du XXIe siècle, hein, il est mort en 2014, a écrit un ouvrage sur son expérience de paysagiste. Et le titre de l'ouvrage, c'est « Le paysage, c'est l'endroit ». C'est l'endroit, c'est le même mot que Léonard de Vinci de tout à l'heure, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. C'est un toucher, oui. C'est pas une abstraction. Et un toucher, ça s'ouvre, ça se plie, ça se déplie, ça contient en lui plusieurs modalités de tact, on pourrait dire. Et d'une certaine façon, un lointain, c'est... contient dans l'horizontalité de l'horizon une part de verticalité. Il me semble que les grands peintres, ils peignent pas l'horizon sous la forme d'une ligne, mais sous la forme d'une épaisseur colorée qu'on voit très bien dans le tableau de Friedrich, qu'on voit très bien aussi dans cet autre tableau de Friedrich qui n'est plus le moine au bord de l'océan, mais au bord de la mer, mais qui est le fameux voyageur debout devant la mer de nuages. Alors c'est un paysage de paysage, puisqu'on voit le voyageur de dos, c'est un paysage qui réfléchit sur lui-même, et avec un vaste panorama, et quand on regarde le tableau attentivement, on voit bien que l'horizon est dilué, l'horizon n'apparaît jamais sous la forme d'une ligne, comme une sorte de brouillard, au contraire, qui permet toutes les rêveries, tous les imaginaires, et l'imaginaire de l'infini, pourrait-on dire.
Alors l'imaginaire, les sentiments, les émotions, est-ce qu'il faut attendre le romantisme, au fond, pour que, justement, par ce primat de l'intériorité, on aille au-delà de la déception strictement visuelle que vous avez évoquée à plusieurs reprises, Pierre-Henri Frangne. Michel Collot, je n'oublie pas que Byron, qui est considéré par Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe comme le père du romantisme, avait un très joli vers plein de H aspirées et de diphtongues. « High mountains are a feeling », les hautes montagnes sont un sentiment. Est-ce qu'il faut attendre le romantisme en effet, Michel Collot, pour que l'horizon garde ses promesses, c'est-à-dire des promesses en termes d'émotion avant tout, intérieure?
Écoutez, je pense en effet que en littérature notamment, et en littérature surtout, le romantisme est le moment en Occident de véritable montée en puissance d'une écriture du paysage. Et c'est vrai qu'elle mobilise fortement l'affectivité au sens de l'émotion qu'il ne faut pas entendre simplement comme la projection des sentiments intérieurs sur l'extérieur, mais tout aussi bien une sorte d'interaction entre le paysage et ce que ressent le sujet et ce que va exprimer l'écriture. C'est Stendhal qui écrivait « les paysages étaient comme un archet qui jouait sur mon âme ». Et ici, c'est le paysage qui est sujet, en fait. Et le sujet n'est que le réceptacle de cette impression que le paysage produit sur la conscience de celui qui y est confronté. Et ça, c'est une relation qui est très, très forte, très présente dans la littérature romantique. Et finalement, moi, je suis entré dans l'horizon, en quelque sorte, par la littérature. Et ce qui donne un point de vue un peu différent. Parce que le modèle pictural va évidemment mettre accent sur la dimension visuelle du phénomène paysager, du phénomène horizon, alors que la littérature va laisser place à toutes ces dimensions sensorielles que Pierre-Henri Fragne a évoquées à travers cette idée d'un tact. Le nombre de poètes qui touchent l'horizon de la main, c'est assez impressionnant, parce qu'il paraît à la fois très lointain et très proche. Le fait aussi que la dimension sonore du paysage puisse être intégrée à une description littéraire de paysage, et surtout que la dimension affective de cette expérience soit notamment avec le romantisme, à partir peut-être du romantisme, mise en valeur. Et j'insiste encore une fois, émotion, c'est sortir de soi. Le texte de Byron que vous avez cité, je crois un peu plus loin, dit « Je ne suis pas en moi-même, mais je deviens partie de ce qui m'entoure. » Et à la limite, puisque Pierre-Henri a aussi parlé d'une esthétique environnementale, il y a là une formulation très précoce de ce qu'on pourrait appeler un sujet éco-centré dans ce qui m'entoure, plutôt que égo-centré. Et je crois que le romantisme, à cet égard, a souvent été mal compris comme un pur, une promotion de la subjectivité, voire du subjectivisme, voire de l'écocentrisme. Lorsque le romantisme se tourne vers l'horizon, c'est pour justement ouvrir la conscience à son dehors et, en effet, à quelque chose qui déborde, dépasse, ouvre la dimension de l'imaginaire et de l'illimité, même si, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, cette ouverture va trouver peut-être dans l'histoire de la littérature, de l'art et de la pensée moderne une déception, voire une contestation, voire une négation.
Restons avec les romantiques. Vous allez entendre un passage du Voyage en Orient d'Alphonse de Lamartine, 1835, suivi d'un très joli propos d'Agnès Varda. Alors, je ne sais pas si c'est encore le romantisme, je vous poserai la question. Agnès Varda, c'est 1965, elle s'exprimait sur France Culture à propos de la mer à Noirmoutier.
Un peu sur la droite, la colline des Oliviers s'affaissait et laissait, entre les chaînes éparses des cônes volcaniques des montagnes nues de Jéricho et de Saint-Saba, l'horizon s'étendre et se prolonger comme une avenue lumineuse entre des cimes de cyprès inégaux. Le regard s'y jetait de lui-même, attiré par l'éclat azuré et plombé de la mer morte qui luisait au pied des degrés de ces montagnes. Et derrière, la chaîne bleue des montagnes de l'Arabie pétrée bornait l'horizon. Mais borné n'est pas le mot, car ces montagnes semblaient transparentes comme le cristal, et l'on voyait, ou l'on croyait voir, au-delà, un horizon vague et indéfini s'étendre encore et nager dans les vapeurs ambiantes d'un air teint de pourpre et d'azur.
Regarder la mer, regarder l'horizon, je peux avoir cette activité des heures durant. En hiver, en été, n'importe quand, je veux dire. Ça dépend des gens, je veux dire. Moi, je n'aime pas la montagne, je n'aime pas tellement la campagne. Les bois, je trouve ça beau, mais j'ai envie toujours de traverser puis de me repartir. Tandis que quand j'arrive quelque part qui est une plage, il me semble que c'est un but, c'est un endroit où on peut se poser, se reposer, s'arrêter et voilà, et réfléchir ou ne pas réfléchir, penser, rêver, dormir, faire ce qu'on veut, mais c'est l'espèce de lieu, le lieu, vous savez, où on mettrait 4 L majuscules.
Vous réagissez tout de suite vers Henri Franck, je vous écoute. Pardon. À ce propos, cet éloge de la mer par Agnès Varda et cette petite pique contre les montagnes, mais qui lui est personnelle, vous qui mettant les montagnes, je vous écoute.
Moi, je suis l'adepte d'une formule que l'on trouve dans Modern Painters de John Ruskin, qui est publié en 1856.
Romantique anglais.
Oui, de l'époque victorienne, qui est un amoureux de la montagne, un amoureux de Chamonix, qui dit « car pour moi, les montagnes sont l'alpha et l'oméga, ou le commencement et la fin du paysage ». C'est un peu ce qu'on a commencé à faire. Il poursuit par un magnifique texte, une phrase unique où il dit « vous prenez un paysage de plaine ». Avec ses arbres, avec ses rivières, avec ses forêts, avec ses collines, etc. Et puis, vous tirez ce paysage par le haut comme l'étoffe d'un manteau de roi, dit-il, la formule est magnifique. Et alors, les rivières se transforment en cataractes. Les falaises se transforment en rochers très spectaculaires et extrêmement verticaux. Et alors, tout ce qui était déjà beau, dit Ruskin, je le cite presque exactement, est encore plus beau. Il me semble que le paysage de mer, avec sa ligne d'horizon, avec son lointain plus ou moins vaporeux, c'est le degré zéro du paysage. C'est sans doute le commencement du paysage. Et je dirais même le commencement au sens historique. On l'a vu avec Pétrarque. On pourrait le voir aussi avec la fameuse pêche miraculeuse de 1444 de Conrad Witz, où pour la première fois à la Renaissance, au plein milieu de la Renaissance, un peintre représente un paysage qu'on peut reconnaître, comme je disais tout à l'heure. C'est une pêche miraculeuse, mais qui se fait sur le lac Léman, avec à droite le Salève, devant le Môle, et puis à l'arrière-fond, la chaîne de montagnes des Alpes. C'est le premier paysage pictural, pour la même raison que tout à l'heure, le paysage littéraire de Pétrarque était le premier paysage.
Et la mer, je veux bien, mais il y a quelque chose, un infini qui est peut-être, justement parce qu'il est plat,
oui.
Quelque chose de plus infini, si
je
on,
pense
peut,
que
on
c'est
peut dire les choses
ainsi. Je pense que c'est le commencement du paysage, à la fois au sens historique, je l'ai montré, mais aussi au sens logique. C'est son commandement, c'est son commencement et son commandement. Il n'y a pas de paysage sans horizon. Et effectivement, l'horizon plat de la montagne, c'est le début du paysage. Il me semble que le paysage de montagne est infiniment plus varié, infiniment plus complexe. Comme le disait, le chinois médiéval de tout à l'heure, j'ose pas prononcer son nom. Il me semble qu'il y a une déambulation.
Mais juste, merci, parce que je voudrais revenir justement à la vision chinoise de l'horizon, qui n'est pas une notion chinoise du tout. Nous avez-vous expliqué Yolène Escande. Est-ce que la mer, M-E-R, existe ?
avec une vraie caractéristique, un caractère, dans les représentations picturales chinoises ou non ?
La mer existe, oui, bien sûr, mais elle peut être entendue dans deux sens, soit la mer océan, où se trouvent les îles des immortels, c'est-à-dire des îles montagneuses dans lesquelles se trouve l'élixir d'immortalité que l'on va rechercher et que l'on va reproduire dans les jardins chinois, puisque tous les jardins chinois comportent une pièce d'eau qui s'appelle la mer. Donc les jardins font partie de ce que les Chinois appellent la culture du feng shui, la culture du paysage chinois. Et dans les peintures, de peinture, disons ici est plutôt relié à la peinture. Dans les peintures, il y a également la mer, mais souvent de façon pratique, il s'agit soit de fleuves. Vous savez, les fleuves en Chine sont vraiment immenses. On ne voit pas l'autre bord à certains endroits. Soit des nuages. Et la mer de nuages est quelque chose que les Chinois admirent. Alors, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que dans la peinture chinoise, qu'elle soit verticale ou horizontale, la montagne est vraiment essentielle, puisque montagne et eau. Hein. Mais l'eau n'est pas simplement celle de la mer ou du fleuve ou des lacs, elle est également celle des nuées, des vapeurs, de la pluie. Et bien souvent, pour revenir sur ce que disait Pierre-Henri tout à l'heure au sujet de l'épaisseur de l'horizon, bien souvent, s'il y avait une ligne d'horizon, elle serait hors de la peinture, c'est-à-dire trop, beaucoup plus haut que notre regard. Ce qui fait que c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'horizon, puisqu'il y a des lointains dans cette peinture, mais il n'y a pas d'horizon.
Oui, je crois qu'on comprend mieux maintenant tout ce que vous nous avez expliqué sur cette différence importante.
Quand le soleil descend sur l'horizon, j'entends au loin l'écho d'une chanson, et je sens mon rêve s'envoler tendrement là-bas, là-bas, vers celui que j'attends. J'ai durant bien des nuits préparé pour lui mes plus beaux atours, ma jolie robe de velours, mon corsage en linon, mes petits jupons, ma chemise à jour. Tout n'attend plus que son retour. Quand le soleil descend sur l'horizon et que la nuit entre dans ma maison, en rêvant, j'entends le vent qui chante pour moi, tout bas, qu'un jour il reviendra. Et malgré les jours qui passent, jamais mon cœur ne se lasse, j'attendrai toujours, toujours.
Merci Nicolas Berger d'avoir trouvé cette chanson. Céline Renaud, Le soleil sur l'horizon, 1950. Merci beaucoup Yolaine Escande, Michel Collot, Pierre-Henri Frogne, vous étiez passionnant. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse aux intentions, bonnes et mauvaises. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi l'intention définit-elle l'action ? devant un événement quel qu'il soit, et surtout s'il est extrêmement grave, s'il transforme en profondeur le monde et notre vie, la vie des individus ou la vie collective, devant un événement donc avec sa gravité à différents degrés, nous pouvons, nous devons, et pas seulement pour des raisons philosophiques, nous demander si c'était là une action délibérée, s'il était une action qu'on peut rapporter à une intention bonne ou mauvaise d'un sujet qu'on peut en tenir pour responsable, qu'il soit individuel ou collectif, et qu'on peut punir ou récompenser en quelque sorte pour cette action et pour ses effets. La distinction donc, la définition de l'action, sa distinction avec un simple événement, n'est pas seulement une distinction théorique et abstraite qui serait réservée à la philosophie de la connaissance. C'est véritablement une distinction qui est au cœur de notre vie. Soit par exemple une tuile qui vous tombe sur la tête. C'est un événement si c'est le vent qui l'a causé, si le toit avait un problème. Encore peut-il y avoir une intention derrière, quelqu'un qui a oublié de réparer le toit, voire qui délibérément avait dressé un piège autour de vous. Vous voyez donc que la différence entre un événement et une action, qui est au cœur de la philosophie théorique et morale aussi depuis l'Antiquité jusqu'à la philosophie contemporaine, analytique et morale en général, cette distinction est absolument fondamentale. La tuile est-elle tombée toute seule ou bien quelqu'un l'a-t-elle lancée délibérément sur vous et à cause de cela allez-vous déclencher une guerre ? L'intention va en effet définir l'action, la question de l'intention, des bonnes et des mauvaises intentions, est au cœur de la vie humaine. Mais qu'est-ce qu'une intention exactement ? Qu'est-ce qui définit l'action exactement ? On peut dire qu'il y a action si l'événement, en quelque sorte, la transformation du monde, d'un état de choses, peut être rapportée à un sujet, parce qu'il en est en quelque sorte l'auteur, parce qu'une pensée en lui, parce que quelque chose dans son esprit a précédé délibérément le mouvement qui, de son corps, a entraîné cet événement dans le monde. Et parce qu'il reconnaît lui-même, en quelque sorte, qu'il y a eu une représentation avant cet événement. L'intention est un certain rapport de l'esprit à l'événement et à travers l'événement, au monde et aux choses. Oui, il y a cette dimension délibérée que certains philosophes ont critiquée, d'ailleurs, comme si les événements de nos pensées n'étaient pas maîtrisés par nous. À ce moment-là, on peut dire qu'il n'y a pas d'intention, qu'il n'y a pas d'action, qu'il n'y a que des causes. Pourquoi la tuile est-elle tombée ? Parce que je l'ai lancée. Pourquoi l'as-tu lancée ? Parce que j'avais un dérèglement cérébral, non pas par une volonté individuelle, mais par un enchaînement de causes. À ce moment-là, vous êtes disculpé de votre action. Il n'y a intention que si l'on peut faire remonter l'événement, pour le meilleur ou pour le pire, à une représentation plus ou moins maîtrisée par un sujet, pas forcément la représentation rationnelle de l'action avec toutes ses conséquences. Peut-être ça peut être passionnel, très complexe. Je ne sais moi-même pas toutes mes intentions, mais je dois reconnaître que je suis la source de l'événement avec toutes ses conséquences pour dire qu'il y a eu action et pour en être tenu responsable. Le droit, avec la psychiatrie, va devoir établir des critères plus rigides pour examiner la responsabilité des êtres humains, mais il n'y a pas d'action sans intention et d'intention sans effet.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast par l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ruben Carmoisine. Merci encore à Ici Provence pour le duplex. Elle a été préparée en particulier par Anna Feulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.